on respire avec CO2, mon amour. Et cet après-midi, on part en forêt dans la Drôme de Nichessous.
L'air de la forêt de Soux, une magique forêt. Merci Corinne Audouin, on vous retrouve pour les informations de 15h.
C'est qui ce con là?
Guy, c'est un homme absolument merveilleux, figure-toi.
Mais il fait quoi?
Il est agriculteur bio, il a son truc juste à côté. Je vais lui prendre des tomates, des oignons frais, tout bio.
CO2, mon amour.
Tu sais ce qu'il m'a offert quand il est arrivé?
Non.
Un pot de miel.
Ah putain.
C'est pour faire entrer la douceur dans votre maison, il m'a dit.
C'est Jean-Paul là-bas?
Ouais. Tu sais que c'est vachement bien ce qu'il fait.
Des légumes bio?
Pas du tout. Il est dans l'humanitaire. Tu sais ce qu'il fait en ce moment par exemple? Il distribue des moustiquaires imprégnés dans plein de villages d'Afrique de l'Ouest. Il a même reçu un prix de la fondation Bill Gates.
Avec Denis Chessou.
En tout cas, il a pris un sac à coups de vieux, lui aussi. Hein. Oh.
Sur France Inter.
De la douceur, il nous faut, comme dans cet extrait de Passe Publique. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2, mon amour. La nature qui chuchote à vos oreilles avec Loïc Frapsos à la technique et assisté de Camille Blanès et aussi, j'oublie pas Jérôme Boulet, tenez, Xavier Pestugia réalise l'émission. Avec une petite humeur, parce que c'était il y a quelques jours, trois buses embellissaient le ciel d'automne. Elles s'enroulaient en carrousel dans une pompe de chaleur qui les faisait monter sans effort. Énergie gratos pour regarder de plus haut son garde-manger et ce que fabriquaient les humains, le pied toujours bloqué sur l'accélérateur. Mais accélérateur vert, oui, vert tout en faisant avancer la machine à réchauffer, en faisant valser charbon, gaz, pétrole en folie. Ces oiseaux nous incitaient à quitter nos sabots de plomb. « Oui, mais vous inquiétez pas, on va trouver !» L'uranium enrichi se frottait ses papates à neutrons. L'avenir est radieux et actif. Le nucléaire sera renforcé. Suivez mon panache blanc de vapeur d'eau et de déchets pour 100 000 ans dans le sac à dos. Le small sera beautiful, ouais, avec des réacteurs de petite taille qui ficheraient moins la trouille à la population. Faut dire que les petits chatons font toujours moins peur sur les réseaux sociaux que les gros matous. Rien ne change. Mais veut-on vraiment changer ? Ils sont fous, disent les buses. Pour nous, on sera toujours tapé par les voitures, mais elles seront électriques, avec une batterie chinoise. Mourra-t-on plus sereine ? Là, en tout cas, elles prenaient de la hauteur pour juste chanter leur bonheur d'exister. Oui, mais on n'a plus de semi-conducteurs, c'est la panique ! Alors après celui de la Terre, on va éventrer le ventre des mers, forer encore l'acier rouge et main d'or, lui faire cracher ses terres rares, ces minerais, allez, vas-y, fort. Les arbres ne craignaient pas les pénuries à venir de composants, car les feuilles avaient inventé le panneau solaire. Oh, il ferait mieux de s'isoler encore plus et mieux. S'isoler, dit la marmotte, mais moi je me confine 6 mois sur 12, voilà mon truc. Et d'accord, mais enfin pour l'humain, ça va pas le faire. Hein. Même avec 3 kilos d'antidépresseurs au fond de son terrier avec un écran plat. Mettez de l'air dans vos poils, comme moi, dit l'ours, c'est plus économique qu'une pompe à chaleur. Ouais, mais la mutation de non-poil n'est pas encore amorcée, ça devrait pas marcher non plus. La buse, en levant son bec, croiserait demain des avions tout verts, fois de président et de plan de relance, sûrement à pédale pour faire du sport aux passagers qui ont pris du poids. Ou alors des avions à voile avec un Nils Holgersson en commandant de bord, se dirigeant aux étoiles. Les animaux savent bien mieux que l'humain le réchauffement qui galope. Il a peur d'un virus, mais pas des colères du ciel. Alors la technique réchauffante qui nous a plantés est sommée de nous sauver. La jolie fable. Les valises de tempête, les sacs de sécheresse, fabriquons les ciels en folie de demain. Nos démocraties sont-elles capables d'intégrer la valeur du long terme? Et nous, est-on capables de croire à ce qu'on sait? Là-haut, les bus sans diplôme jouent les Thomas Pesquet, prennent le recul nécessaire pour y voir plus clair dans le trafic des campagnols, et sans le moindre effort, portée par l'air léger du soleil doux d'automne, elle s'étonne de nous voir aussi affairés. Je vous ai parlé de forêt magique, donc au menu, cette forêt de Soux qui s'écrit S-A-O-U, nous sommes dans la Drôme, vous allez voir, ça va nous faire un bien fou, et c'est avec Bernard Foréru qui sera notre guide.
Your little fine ass up in the tower. The way you move like you do. Ooh, it's
Sorti à coup de marteau de la playlist par Thierry Dupin, c'était donc Silk Sonic, ce qui est pas mal pour faire danser les marmottes et les sangliers de la forêt de Sceaux. On quitte le chemin là, Bernard ?
Non, on reste là. Je voulais juste vous montrer quelque chose, parce que dans cette ferme Pézier, on l'appelle aussi la mine dans le pays. Oui. Pourquoi la mine ? Parce qu'il y avait une mine de lignite. Le lignite, c'est le charbon de terre, c'est un mi-chemin entre la tourbe et la houille. Et ce lignite a été exploité notamment pendant les périodes de conflit où on manquait de combustible. On venait chercher du lignite dans la forêt de Sceaux. L'entrée de la mine, je l'ai retrouvée, elle est juste là au-dessus de nous, en haut des terrasses. Ouais. On voit un petit peu, on la devine. Ah ouais. Hein. Et puis, cette mine de lignite est exploitée avec des wagons. Et on a retrouvé ces rails qui servaient à faire voyager les wagonnets. Et comme vous le voyez, ils sont figés dans l'arbre.
Enchâssés dans l'arbre.
Voilà, le chêne a poussé en soulevant les rails. C'est assez étonnant à voir, cette sculpture contemporaine. Mais ce sont les dernières traces que l'on ait de ces mines de lignite. Et en fait, toute l'histoire de la forêt repose là-dessus. C'est la géologie de la forêt qui explique son économie.
C'est donc un morceau de préalpes aux portes de la vallée du Rhône. Alors c'est une forêt aux avant-postes du Diois, du Vercors, mais qui sent déjà la Provence, qui l'attrape par la main. Mais elle résiste. Ouais, certes du thym, de la lavande, du romarin, un peu d'olivier dans ses veines, mais cette forêt nous montre aussi d'autres choses. Magie géologique et espace naturel sensible. Alors télescopage d'espèces, nous sommes dans un chaînon donc montagneux, ce massif forestier. Nous sommes en fait dans un gigantesque plissement de la terre, de 12 km et de 2 à 3 km de large, qui pousse vers le ciel ses murailles calcaires. Le synclinal perché le plus haut du monde est en suspens au-dessus de la vallée. Alors Sceaux, S-A-O-U, ça veut dire en fait de vallée traversée par l'eau, hein, c'est la même étymologie en fait que la Saône ou bien la Seine. Vous allez entendre Inès de Rincourt et ses chèvres et de la ferme qui sourit, qui s'écrit d'ailleurs Saouri, bien sûr, Bernard Foré-Roux, qui est géographe et conférencier. Alors bienvenue dans cet isolat alpin, aux portes du Midi, qui doit sa richesse vraiment à l'intervention humaine, sous l'œil des trois becs, montagnes tutélaires de la forêt de Sceaux.
On va remonter à 100 millions d'années. S'il y a 100 millions d'années, on est ici au fond de l'océan, de cette mer gigantesque qui va depuis ce qui sera plus tard les Alpes et le Massif central. Mais si tu lèves la tête vers le sud, on peut aller jusqu'à l'Australie sans mettre pied à terre. Alors, faut pas trop lever la tête, hein, parce qu'il y a des ichthyosaures et des plésiosaures qui nagent autour de nous. On est en plein règne des dinosaures. Et au fond de cet océan vont se déposer des déchets minéraux qui viennent de l'érosion des montagnes et des îles environnantes. Ça va nous donner toute la famille des sables et des argiles. Des déchets végétaux qui vont rentrer dans la composition de certaines roches. On parle du lignite. Le lignite, le charbon de terre, vient de ces déchets végétaux en partie. Et puis des déchets animaux, des coraux, des crustacés, des coquillages, des squelettes de dinosaures, par exemple, qui vont nous donner, une fois compactés, toute la famille des calcaires. Et ça va nous constituer un gigantesque millefeuille de couches dures et tendres qui à la fois a suffisamment de rigidité pour ne pas se répandre s'il subit un mouvement géographique et qui en même temps est suffisamment souple pour pouvoir encaisser les chocs de l'écorce terrestre. Il y a 85 millions d'années, la plaque tectonique africaine décide d'aller passer ses vacances en Europe.
C'est ça.
Elle remonte vers le nord en suivant les mouvements du magma. Elle vient cogner la plaque tectonique européenne. Et là où jonction se fait, les Pyrénées sortent de la mer.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que les Pyrénées, c'est quoi ? C'est 85-90 millions d'années à peu
85
près.
Millions d'années environ. Ah. Environ, il faut toujours dire environ.
Et là, on est, donc elles vont pousser est-ouest
Elles vont pousser du sud vers le nord et ça va nous faire des plis est-ouest. Voilà, hein ? Quand on prend une feuille de papier, je fais souvent ça avec les enfants de l'école, je mets ma main d'un côté qui bouge pas pour faire le Massif central, mais ma main de l'autre côté qui fait les Pyrénées et qui pousse, et entre les deux mains, ça fait des plis.
Ah oui.
Et c'est ce qui va se passer. Ça se soulève et ça fait des plis. Et bien, les Pyrénées, bon, c'est une chaîne jeune, place aux jeunes, ils poussent tout ce qu'il y a devant eux, ils vont pousser tout ce fond d'océan constitué de calcaire et d'argile, et ça va nous faire des plis.
Donc au milieu coule la vallée, quoi.
Et au milieu coule la rivière, la Vèbre, qui tire son nom du latin fiber, fiber.
Il y a du castor là-dessous. Hein.
Voilà, il y a du castor. C'est la Bièvre à Paris, c'est Beaver en anglais, c'est la rivière des castors et il y a toujours des castors dans la Vèbre.
On a le calcaire, on va dire, qui est en haut, on a des grands bouts d'océan Et puis, dès qu'il y a de l'eau qui coule, ici, c'est un peu comme dans le Vercors, en très peu de temps, donc cette eau, elle va descendre très très vite et ressurgir.
Voilà, c'est ce qu'on appelle en géographie, en géologie, un relief karstique. C'est-à-dire que la pluie, tu sais, est toujours un petit peu acide. Elle va ronger ce calcaire, elle va créer des grottes. Alors les grottes qu'on appelle aussi des baumes, des sialets, des chourums, ils ont différents noms. Et elle va creuser des grottes, elle va creuser des lacs souterrains, des rivières souterraines. Elle va complètement façonner ce paysage qui va devenir un gigantesque château d'eau. Et la forêt dessous agit comme un impluvium, c'est-à-dire que l'eau qui est stockée dans le calcaire va venir traverser après les autres couches de sable, d'argile, de marne, etc., pour obtenir une qualité d'eau d'ailleurs d'une pureté exceptionnelle. Les fontaines dessous sont réputées pour la qualité de leur eau et les gens viennent y remplir leurs jerricanes tous les week-ends. Mais cette eau va aussi permettre l'installation effectivement d'une présence humaine parce que ça crée toute une série de sources qui sont toutes à peu près au même niveau, c'est-à-dire là où le calcaire s'arrête et où commencent les roches argileuses et marneuses.
Et c'est pour ça qu'on a les fermes.
C'est pour ça qu'on a des fermes. Et si tu prends la série des fermes qui sont bien entendu toutes sur le versant sud, c'est-à-dire le versant le plus aimable, là où la pente devient douce pour qu'on ait des champs cultivables, elles sont toutes à peu près à 500 mètres d'altitude, 450-500 mètres d'altitude. Oui. Paturelles, Chauvet, Fioc, Rayon, Pézillet, Brunel, elles sont toutes à peu près à la même altitude. Et puis, il y a un deuxième rang de falaises qui est plus haut dans la forêt. Et là, il y a un deuxième rang de sources et il y a d'autres fermes qui se sont installées là-haut, plus petites, plus modestes, les Girards, la Selle, etc., etc. Donc on a deux rangs de fermes qui correspondent à deux rangs de sources.
Il faut imaginer quand même cette forêt qui a toujours été un lieu alors à la fois de production, de vie et aussi un refuge.
Ça a été un refuge. Alors ce qui est amusant, c'est que pendant longtemps, la forêt est considérée comme un piège. Les hommes du néolithique vont s'installer tout autour de la forêt, mais ils n'aiment pas trop y rentrer, parce que comme il n'y a qu'une seule entrée, c'est facile de les coincer à l'intérieur. Oui. Et s'échapper par les cols qui ici sont très escarpés, qu'on appelle des pas, c'est un danger. Donc ils n'y vont pas. Et il y a d'ailleurs certains animaux qui vont faire pareil. On ne trouve pas de cerf dans la forêt, parce que le cerf aime bien les grandes étendues, il voit loin, et là il se sent piégé à l'intérieur de la forêt. Et c'est à partir d'un certain temps, que vers le 12e siècle par là, que les hommes vont commencer à s'installer dans la forêt. Pourquoi ? Parce qu'ils fuient les brigandages, les sont appelés les routiers de Raymond de Turenne particulièrement, mais aussi ils fuient les épidémies de peste, les grandes pandémies qui étaient capables de ravager 40% de la population, alors ils viennent se réfugier dans la forêt. Et ils se disent que finalement, cet inconvénient d'avoir qu'une seule entrée, ça peut devenir un avantage si on en conçoit la forêt comme un refuge. Et ils vont s'installer à partir du XIIIe siècle, alors la forêt appartient à l'époque au comte de Valentinois, et ils vont créer petit à petit des bergeries, puis petit à petit des fermes, jusqu'à la grande explosion des fermes de la forêt, c'est-à-dire le XVIe siècle. En fait, pourquoi le XVIe siècle ? Parce que c'est les guerres de religion et que les seigneurs du coin, ils ont autre chose à faire que d'empêcher les fermiers de s'installer ici. Ils sont bien trop occupés à se battre entre catholiques et protestants, donc les fermiers en profitent et s'installent dans la forêt.
Elles ne sont pas sorties depuis plusieurs jours, donc là, je pense que ça va être l'euphorie.
Ça va être le déchaînement, ça va être la marée de chèvres pour aller dans la forêt dessous.
Voilà, le temps qu'on organise les clôtures d'un côté ou de l'autre pour qu'elles aient à manger, eh bien, on les avait un peu stoppées à l'intérieur.
Oui, non, c'est leur fête à elles, personnelle.
La fête à la luzerne.
Oui.
Elle, c'est Ariel, c'est la plus vieille de nos chèvres.
C'est Ariel, et donc rappelez-moi la marque de vos chèvres. C'est
des alpines chamoisées. Oui. Allez les mémères.
Sortez du troupeau. Allez.
Viens mémère. Allez, viens ma jolie. Allez, viens ma louloute, viens.
Allez, la dernière. Hop, ça y est, on est vraiment sur les contreforts de la forêt dessous, là, Inès.
Ouais.
Et donc là, c'est garde-manger pour les chèvres.
Voilà, on est au-dessus de la maison, là, dans le bois. Donc on a la source pas très loin. Et tu vois, regarde, elle mange l'ambroisie, là. Ça, c'est une bonne chose.
Une très bonne chose, parce que ça, dans le genre plante envahissante.
Oui, il y en a.
C'est un lieu qui correspond donc à quoi pour vous ? Parce qu'en fait, vous vivez avec cette forêt dessous.
C'est vraiment... la terre nourricière, là, pour le coup, hein. Pour plusieurs choses, pour les chèvres déjà, pour la beauté de la vue, de l'odorat, et d'essence, tous réunis. Et puis c'est aussi une diversité incroyable qui pour moi représente la vie. Maintenant c'est devenu une terre nourricière pour nos chèvres puisque elles vont venir manger sur les contreforts. Mais on a aussi la possibilité d'aller faucher les grandes prairies qui sont en cœur de forêt. On a une adjudication avec le département. Et du coup,
c'est donc l'herbe, le foin qui est en bas, donc nourrit évidemment pendant
l'hiver. Les prairies naturelles, c'est incroyable. Quand on ouvre les bottes de foin qui arrivent de la forêt, elles se jettent dessus. Ça sent le thym, ça sent le romarin. Elles sont dingues quand elles voient ça, quoi.
Inès, vous parliez du thym. Lorsque vous l'utilisez, vous, en spray, c'est pour quoi faire ?
Alors, c'est un spray cicatrisant avec un mélange précis qu'on a travaillé donc avec notre vétérinaire et donc un pharmacologue. Et on a mis du thym, de l'aquilée, de la lavande. Et moi, on a de la chance, on vit dans la Drôme. Donc, tant que je peux me fournir en local, je le fais.
Mais ça, ici, c'est facile, c'est le paradis.
Ici, c'est facile, c'est le paradis, voilà. Donc, on a des voisins qui font de la lavande. Je prends exclusivement leur lavande. En plus, elle est délicieuse, donc c'est parfait.
Et donc, ça les cicatrise lorsqu'il y a une plaie.
C'est incroyable, ouais. Ça marche super bien, mais vraiment, du coup, on l'utilise un peu pour nous aussi.
Oh bah alors.
Elle est perchée dans son arbre, elle est en train de manger le lierre. De temps en temps, Daniel, c'est mon compagnon, il vient ici en fin d'été, il coupe 2-3 chênes, et alors là, elle se jette dessus parce qu'elle mange tout le lierre. Tu vois, ce chêne, on voit même plus que c'est bien. Un chêne, tellement il y a du lierre dessus. Et alors ça, elle se gave, elles adorent ça, et nous, on a notre bois pour l'hiver.
Ah, on passe sous une ferme, là.
Donc, c'est la ferme Pézillé. C'est des plus belles fermes de la forêt. Alors, elle s'appelle Pézillé parce que probablement, ou soit le propriétaire cultivait des pois.
C'est ça.
Et sur Pézillé, c'est le petit pois. Soit il avait une tête de petit pois.
C'est aussi possible
puisque souvent, on donnait le nom aux fermes de sobriquet des propriétaires. La ferme Chauvet, ben, c'était la ferme du chauve. La ferme Brunel, c'était la ferme du brun. Et la ferme Pézillé peut très bien être la ferme du fermier qui avait une tête en forme de pois. Alors il faut imaginer évidemment à l'époque, toute cette forêt est entièrement cultivée, pâturée. La forêt de Souffre, on l'a dit tout à l'heure, fait 2500 hectares. Au début du XXe siècle, il y avait 2300 hectares cultivés, pâturés et seulement 200 hectares de forêt. Seulement. Et là, à la c'est fin l'inverse. Du XXe siècle, on a inversé les chiffres. Il y a 200 hectares de pâture et de landes, et on a 2300 hectares de forêt. Mais la forêt, on est dans un espace naturel sensible, à condition que la main de l'homme fasse partie de la nature, et je le souhaite, parce que l'espace naturel a été planté par les hommes, par les grands propriétaires de la forêt, Burrus, le célèbre Maurice Burrus, mais aussi Forissier, Moulin, etc., qui ont petit à petit replanté la forêt.
Alors c'est fou, hein, parce que c'est vraiment un petit milieu, mais c'est incroyable. On est dans presque dans une bulle, quoi, dans une bulle de biodiversité folle ici.
Oui, tout à fait. La Drôme fait 6350 km². Là, on est dans un espace qui fait 2500 hectares, hein, c'est-à-dire 25 km². Et dans ce 260e du département, on trouve entre un tiers et la moitié des essences végétales qu'on trouve dans tout le reste de la Drôme.
Ah.
La particularité de la forêt de Souffre, c'est que sur ces 2500 hectares, on va trouver pratiquement tous les types de végétation qu'on peut trouver en France, à part les bords de mer et les neiges éternelles.
Oui.
Vous êtes en bas, dans la végétation typiquement méditerranéenne, avec l'eucalyptus, la vigne, l'olivier, la partavelle et la couleuvre de Montpellier, c'est-à-dire des essences et des animaux typiquement méditerranéens. Et vous allez être en haut des Trois Becs, vers 1600 mètres, au milieu de la tulipe alpine, le saxifrage, la marmotte, le chamois. On est dans les prairies subalpines. Et on a tous les étages de végétation, mais, et c'est là où le mot mélange est intéressant, c'est qu'ils se mélangent entre eux. On assiste à des associations qu'on ne devrait pas voir dans la nature. Par exemple, au sommet du Veillou, on va trouver donc de la tulipe alpine, et à côté, on va trouver du genévrier méditerranéen.
Oui,
normalement, ils ne sont absolument pas au même étage. Exactement. Et de même, on va avoir aussi un autre phénomène dans la forêt lié à la géomorphologie du site, c'est les inversions de végétation. Au fond de la forêt, dans la Grande Combe, on est dans un milieu très humide, très froid, très à l'ombre, et on va voir pousser des érables, alors qu'au-dessus, 300 mètres au-dessus, on va voir pousser des chênes.
Mmh.
C'est pas dans ce sens-là, normalement. C'est vrai, une inversion de végétation qui est assez étonnante. Et cette variété de végétation, ce mélange de végétation, ces phénomènes d'inversion, et bien sûr, ils induisent aussi une faune qui est très spécifique. Là, on va marcher pendant 5 minutes.
Oui.
Pour arriver au chaos là.
Restez avec nous, avec Bernard Foréroux, parce que le balai de chênes, d'érables, d'hêtres, de sapins, de chenilles, de papillons, de chèvres, eh bien, continue.
Il y avait les arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel, des oiseaux rigolos. Il y avait les mares, par-dessus les tombeaux, et parfois même gravés des mots beaux. Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux, une vache qui mâche, c'est beau. À la route amie que j'avais faite ce jour-là, je ne pourrais jamais oublier ça.
Il y avait la pluie sur le toit de l'auto, quand une pluie est gentille, c'est beau. Il y avait des gouttes qui pleuraient au carreau, sur une route qui doute, c'est beau. Et soudain, des pompes que l'on prenait d'assaut, une pompe qui pompe, c'est chaud à l'amour, ami, que la vie fit ce jour-là, fut un amour poésie avec moi.
Il y avait une phrase par-dessus les oiseaux, quand une phrase t'extase, c'est beau.
Il y avait la lune par-dessus les coteaux, mais une lune pas brune, c'est haut.
Et dans la campagne, un vieux train qui passait à travers la montagne pressée.
Des barrières de douane à jamais abrogées, et Dieu merci Saint-Antoine, c'est vrai.
C'est vrai.
De comprendre cela, mais moi je ne suis qu'un être ouïda.
Ah, venez à moi, Apollinaire et Rimbaud, avec l'ami de ma joie, Charles Gros.
Arc-en-ciel de rêve sur le toit de l'auto, ces instants qui s'achèvent sont beaux.
Mais ce soir en tête, j'ai ce vieux cinéma qui vient et qui me projette tout ça.
Il y avait du charme, des orages trop gros, parfois aussi des gendarmes héros.
Sortant ma voiture d'important caniveau, une voiture qui dure, c'est beau.
Poursuivant ma route, j'aperçois un logis
où l'on casse la croûte aux bougies.
Il y avait des fraises,
des côtelettes d'agneau,
une atmosphère Louis XIII,
du vin chaud. Il y avait Thérèse
et de la poule au pot,
une Thérèse à l'air,
c'est beau.
Où vas-tu, petite, ton service est fini.
Moi, je t'invite à venir dans ma nuit.
Ah, c'est déjà novembre.
Apporte encore du bon vin.
Tout là-bas dans notre chambre.
C'est au vin.
À l'amour, ami, que je vécu ce jour-là. Je ne pourrai jamais oublier ça.
Choisi par nous-mêmes avec Xavier Pessugia et Thierry Dupin, c'était donc une excellente reprise. Il y avait des arbres, Thomas Dutronc et Philippe Catherine.
CO2, mon amour.
Je sens qu'elle va pas m'amuser longtemps, cette maison.
Ah bon? Comment ça?
Je vais commencer par tuer ce chien et puis on verra après.
Sur France Inter.
Non, vraiment, ça y est, on l'a réanimé, donc c'est parfait. Nous revenons dans cette forêt de Soues, avec la commune de Soues. Alors là, vraiment, on est en pays huguenot, hein, parce que donc dès 1550, vous aviez un pasteur, vous aviez un temple, vous aviez donc trois seigneurs. Après, au moment de Louis XIV, donc ça a servi de refuge, hein, face aux dragons de Louis XIV. Donc le protestantisme est donc bien là. Et donc on va poursuivre, nous, ce voyage dans cette forêt presque entièrement fermée sur elle-même, avec une seule issue, hein, là où passe la Vèbre, et puis on arrive sur Soues, et on va retrouver Inès de Rancourt avec ses chèvres.
Alors on va se poser sur la pierre.
Voilà, mi-ombre, mi-soleil.
Et puis, un petit coup de picodon.
Amélie nous amène des petits fromages.
Waouh !
On va se manger ce petit fromage, là.
Allez hop, allons-y, picodon.
Bien crémeux.
C'est bon, hein?
Exactement.
Alors avec Daniel, votre compagnon, on va vous préparer quand même face au loup. Parce que donc on sait qu'il y a une meute maintenant qui est ici.
Oui.
Évidemment, il a besoin de trouver un territoire. Vous êtes éleveuse de chèvres. Il y a aussi du pastoralisme. Donc on vous a pas encore été attaqué, mais on tente la cohabitation. Qu'est-ce qu'on fait?
On va tenter. On va voir si ça fonctionne. Après, je sais pas, le jour où j'aurai notre première chèvre qui va revenir. Ouverte la cohabitation, je vais la voir d'un autre œil, hein. C'est évident. Donc nous, on a des ânes pour lutter contre le loup, on a des parcs électrifiés, on pense à s'équiper avec un chien de protection, mais on a aussi le souci d'accueillir du public. Daniel a passé son permis de chasse, alors voilà, c'est une première, un premier pas. Pour du tir de défense, non pas du tir sur le loup, hein, mais simplement faire sentir la poudre, comme disent les bergers. Et puis le chèvre, elle
rentre. Le loup est de nouveau peur de l'homme, quoi.
Ouais, c'est un peu ça l'idée, ouais. Enfin, pas qu'il ait peur de l'homme, c'est pas ça. C'est lui dire attention, ici c'est chez nous, toi t'as d'autres endroits, tu peux. Vas-y, va du chevreuil, du sanglier. Je sais qu'il aime moins le sanglier, mais. Bon, voilà, tu as ce qu'il faut ailleurs, laisse-nous notre outil de travail, s'il te plaît. Et elles sont tellement affectueuses, nos biquettes, que s'il leur arrivait quelque chose, j'aurais une petite dent contre lui.
Eh oui. Alors, chère Inès, donc, ce qui vous plaît quand même ici?
Moi, ce qui me plaît, c'est ce côté naturel, mais qui est aussi arpenté par l'homme. Ouais. Et moi, j'aimerais vraiment que cette forêt dessous, elle reste pas simplement un parc d'attractions où les gens voudraient juste pique-niquer et se balader. Il est important que les gens continuent à venir se balader et pique-niquer et voir, regarder, ressentir. Mais il est aussi très important qu'on puisse y vivre, qu'on puisse continuer à y voir des bergers, des moutons, que nous on puisse continuer à venir y ramasser le foin, que ça puisse vraiment être un milieu naturel.
J'embrasse pas vos chèvres, mais vous fais la bise. Hein. Bon. Combien on en fait là? 2, 3.
Tu n'oublies pas la troisième parce que on a 3 bises, une pour les catholiques, une pour les protestants et une pour la réunification des deux.
Ah, ne pas louper. Merci beaucoup.
On commence à distinguer la carrière de Kaolin à travers les arbres.
Ah. Notre être, notre feuillard se plaît bien là.
Oui, tout à fait. On a des hêtres et des charmes. Et on a un procédé mnémotechnique qui est amusant d'ailleurs pour les reconnaître les uns des autres.
Oui.
Parce que le charme a des feuilles qui sont un peu dentelées au bout.
Exactement.
Et l'hêtre a des feuils lisses avec des petits poils, légers poils. Et la formule, c'est le charme d'Adam, c'est d'être à poil.
Bien.
Voilà.
Et ben voilà, c'est fait. Vous l'avez noté. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Bon.
Des endroits les plus étonnants de la forêt.
Ça a l'air d'être complètement fou là. On arrive, on commence à voir une masse blanche qui découpe des petits bouts à travers les vitraux du verre de la forêt. Eh ben non, c'est pas de la neige du tout. On arrive sur du sable très très fin.
Waouh! Oui, on est dans la famille des argiles, donc c'est une carrière de kaolin. Et c'est vrai que l'image de la neige vient tout de suite à l'esprit. Souvent, quand j'emmène des gens ici en hiver ou au printemps, ils disent « mais il y a encore de la neige, il y a encore de la neige ». Non, c'est du kaolin, mais la blancheur est vraiment exceptionnelle.
Donc ça, on l'a utilisé, hein, bien sûr.
Voilà, on a cette poudre, c'est de la véritable poudre, c'est de la farine. Et ce kaolin, on l'utilise pour faire de la porcelaine. Depuis la préhistoire, on est venu dans la forêt dessous prendre de l'argile pour faire de la poterie. Et puis un jour, les hommes ont découvert quand même la porcelaine. C'est la Chine qui nous a appris ce qu'était la porcelaine. Et il y a eu quelques propriétaires de la forêt qui se sont lancés à faire de la porcelaine de soue. Ces propriétaires-là ont fait venir des spécialistes de Limoges, bien sûr. Et les ouvriers spécialistes de porcelaine, eux, venaient d'Italie. Et ils ont créé une porcelaine de soue qui est très belle, très blanche, très pure. On en a quelques spécimens encore au musée de Valence, où on peut aller les voir. Et ça, malheureusement, ça n'a pas duré beaucoup, parce que, comme vous le voyez, on a une belle carrière de kaolin, mais elle est quand même pas gigantesque comme les grandes carrières italiennes.
Oui.
Et donc, on avait une petite production, et la petite production n'était pas suffisamment rentable, donc ça s'est vite arrêté. Et si vous le voulez bien, on va s'approcher jusqu'au pied de la carrière. Alors là, on est sur une plage. Hein. On a vraiment l'impression qu'il manque la mer.
C'est ça.
On est sur une plage de sable fin. Et cette plage ruisselle jusqu'au sentier par lequel nous sommes arrivés, ce qui fait qu'on appelle tout le site les Sables Blancs, le site des Sables Blancs.
Ça y est, là, on rentre dans le blanc.
Waouh,
c'est pétrifié.
Voilà. Alors nous sommes tôt le matin, mais je peux vous dire que quand le soleil tape en plein sur la carrière, il vaut mieux avoir des lunettes noires parce que c'est éblouissant, éblouissant.
Et alors là, la jumelle, on voit sur une vire les chamois. Là, c'est bon, ils sont de sortie, là. Ça y est.
Ils sont de sortie. Alors, il y a quelques points dans la forêt où on est sûr de les rencontrer, quasiment sûr de les rencontrer. Mais il faut y aller tôt le matin parce qu'il y a quand même des randonneurs dans cette forêt. Et les chamois, passé le premier randonneur, ils s'en vont, ils se cachent et on les voit plus difficilement. Mais si on vient très tôt le matin sur les Trois Becs, on est pratiquement certain d'en rencontrer.
Il y a donc ces pierriers quand même aussi. Et là, on les entend, nos copines, les marmottes. Voilà. Alors, vous en avez beaucoup moins peut-être que dans les Hautes-Alpes voisines.
Oui, c'est vrai.
Ah, et la, Savoie.
Alors, il faut être honnête, hein, les chamois et les marmottes dans la forêt de Soue ont été réintroduits. Ils ne sont pas revenus naturellement, ce qui est le cas de certaines... Le loup est revenu naturellement.
Oui,
mais les chamois et les marmottes, non, ils ont été réintroduits.
Là, on entend un aigle. Ah ouais. Oui, c'est lui, ça.
Alors, il faudrait qu'on ait des bons yeux pour le voir, parce qu'ils sont capables de... Là, il y a le soleil qui gêne la vision.
Donc, il a son air, là.
Mais on l'entend. C'est souvent comme ça, les oiseaux. Tu les entends avant de les voir, et puis après, tu habitues tes yeux pour les retrouver. Et tu vois tous ces rochers qui font comme des dents, là, se succèdent comme ça. C'est assez impressionnant.
Ils vont grignoter le ciel.
Oui, tu as l'impression d'une sorte de mâchoire qui va grignoter le ciel, exactement.
Ouais.
Et qui se forment l'une au-dessus des autres. Alors là, on est en face de Roche-Colombe, donc la proue du bateau. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, qui est très jolie, c'est la légende de Sainte-Colombe.
Ouais.
Tu vois, tout en haut, à gauche, il y a une petite bosse, là. Et au pied de cette bosse, il y a une grotte, dans laquelle vivait une jeune femme ermite au IXe siècle, qui s'appelait Colombe, et qui avait une particularité, c'est qu'elle parlait aux animaux. Et un jour, des paysans de Soue sont allés faire des moissons, et les mamans avaient emmené les bébés, et avaient posé les bébés à l'ombre des arbres, pour pouvoir moissonner tranquille, et monter le blé en gerbe. Et... un aigle a décollé de la tour de pierre qui domine la falaise, qu'on appelle la Poupou Nochouka, et il est venu s'emparer...
Ça, la Poupou Nochouka.
La Poupou Nochouka, les choukas étant des corbeaux.
Bien sûr, c'est leur vie.
Et donc cet aigle est allé s'emparer du poupon, d'où le nom de la poupoune, et l'a ramené dans son aire en haut de la poupoune pour le manger avec ses aiglons.
Pas sympa,
pas cool du tout. Alors les paysans ont hurlé, crié, etc.
Oui.
Colombe a entendu les cris des paysans, elle s'est précipitée, et comme elle parlait le langage des animaux, elle a dit à l'aigle, ah non, tu ramènes le petit à sa mère. Donc l'aigle a obéi, il a ramené le petit à sa mère. Tu imagines, les paysans ont crié, miracle, miracle, c'est une sainte, c'est devenu Sainte Colombe. Mais c'est une légende qui est donc très ancienne dans l'histoire de Soue, et qui a laissé son nom à la falaise de Roche-Colombe.
Oui. Et la Poupou Nochouka.
Et la Poupou Nochouka.
Bah tiens. Je vous rassure, on s'était fait la bise de loin avec Inès de Rancourt, mais on souhaitait symboliquement le faire donc pour cette petite histoire. Merci aussi donc à Bernard Forêt-Roux. Et je vous signale que samedi et dimanche prochain, vous avez un très bel événement multiculturel qui s'appelle Sillon, qui touche 6 villages de la Drôme, dont Soue. Vous avez une quarantaine d'artistes. Et moi, je vous y retrouverai avec grand plaisir. Nous y serons pour parler donc de nature. Sillon.org, vous savez tout. Voilà, j'espère que cette respiration vous a fait autant de bien que nous. Donc, en écoutant donc de nouveau ces propos. Merci à Loïc Frapsos, à Camille Blanès, à Jérôme Boulet qui a colorisé donc ce reportage sous la houlette, aussi inspiré de Xavier Pestugia, à Thierry Dupin, Anne Gouzon qui nourrit les sites de Ceux de mon amour. Et la semaine prochaine, tenez, ça va être tout à fait autre chose. Je vais vous emmener dans l'Isère. Ce sera pour voir le nouveau hôpital de Voiron. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce que vous avez un circuit naturaliste qui est le fruit de l'association Le Pivert d'un côté, les architectes, les bureaux d'études de l'autre. Voilà, donc c'est assez intéressant de mélanger donc à la fois la médecine et les bienfaits de la nature.
N'oubliez pas les podcasts ainsi que celui de La Tulu, mon petit loup, et puis Instagram et Twitter.